France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Le Grand Palais des Champs-Élysées est devenu la plus grande librairie du monde.
Et c'est vrai que moi, j'en suis arrivée à un stade de cuisine où j'aime bien les sujets quand même très nichés.
La gastronomie française, elle est connue mondialement. Vous êtes fort dans la technicité et dans la finesse. Et quand ça s'agit de maîtriser les épices et le mariage sucré-salé, je suis désolé, le Maroc.
Je savais pas ce qu'on mangeait, j'ai pris du rosé.
Babou s'est lancé dans un buffet marocain.
Parfait, ça fera office de Sidi Ibrahim.
Ah non, de Boulaouane.
Pour pouvoir parler d'un livre de cuisine, il faut quand même avoir fait une recette qui se trouve dedans.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Festival du Livre de Paris. Merci cher public. Le plateau dont on va déguster est installé sous les très belles verrières du Grand Palais. Et ce Grand Palais est devenu le temps d'un week-end la plus grande librairie de France, où se retrouvent tous les amoureux de littérature, de romans graphiques, de beaux livres, mais aussi évidemment de livres de gastronomie. Le pays invité de cette édition 2025, vous le savez sans doute, c'est le Maroc. Et ça tombe bien, car la cuisine marocaine a le vent en poupe dans l'édition culinaire. Et ce n'est pas notre invité du jour qui nous dira le contraire. Nada El Hanini, bonjour.
Bonjour.
Marocaine de naissance, française d'adoption, vous revisitez, modernisez, vulgarisez la cuisine de vos origines. Alors sur les réseaux sociaux, hein, vous êtes très connu, avec une influence incroyable sous le pseudo, je vous laisse le dire,
de Nad Snacks.
Et vous signez votre premier livre, hein ?
Exactement.
Premier livre de recettes, Ma cuisine marocaine, 70 recettes twistées de Paris à Marrakech aux éditions Marabout. Les photographies sont signées Manon Bouillet, c'est ça ?
Exactement.
Alors, il y a déjà des recettes de Nada qui circulent autour du plateau dont on va déguster. Vous nous en faites un tout petit avant-goût.
Alors là, j'ai choisi 4 recettes.
Ouais.
Donc aujourd'hui, je vous présente... le tout premier, c'est un granola aux épices marocaines.
Oui.
On a des carottes, la salade de carottes revisitée au cumin.
Oui.
Des pains à l'orge au fromage et aux olives et des dattes fourrées à l'amelot.
Ouh, on va se régaler. Je vois déjà mes voisins et mes voisines dans le plateau dont on va déguster qui ont la bave aux lèvres quasiment. Comment la littérature rend compte de la cuisine marocaine, des mets et des mots servis sur notre plateau par notre gourmet lettré Stéphane Solier. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons aussi rendez-vous dans cette émission avec notre spécialiste de la cucina italiana, Alessandra Pierini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Vous publiez, alors je voudrais pas trop faire de teasing, comme on dit en bon français, mais vous publiez l'un des livres les plus singuliers, les plus originaux de la saison. Attention, je vous lâche le titre. La cuisine des maisons de plaisirs italiennes aux éditions de l'Épure. Et vous allez nous raconter cette aventure éditoriale et sensuelle.
Avec plaisir.
Et puis ils sont avec nous pour défendre d'autres livres de gastronomie, deux chroniqueurs qui sont aussi gros croqueurs de livres. Ce sont Elvira Masson et Jérôme Gagnès. Hello les copains.
Bonjour à toutes et tous.
Bonjour à tous.
Retrouvez d'ores et déjà les recettes de nos invités, nos coups de cœur de livres de gastronomie sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster au Festival du Livre de Paris.
Plus de 450 maisons d'édition présentes sous la magnifique architecture Belle Époque du Grand Palais. C'est quand même 120 éditeurs de plus que l'année dernière, pas moins de 11 scènes dédié à 330 rencontres avec plus de 1000 autrices et auteurs. Plus que jamais donc, le Festival du Livre de Paris est le grand raout littéraire de l'année. Ça a démarré vendredi, ça se termine aujourd'hui, ce soir, à 19h. Et c'est l'occasion d'aller glaner évidemment quelques coups de cœur dans les travées de ce festival. Allez, des petits coups de cœur comme ça, la boum, c'est parti, on commence avec vous Elvira Masson.
Alors déjà, moi, je remporte la palme du plus joli titre. J'ai rêvé d'un gâteau très haut qui ne peut se décrire en un mot. C'est pas mal, non ?
Oui.
La rêveuse en question s'appelle Marie Asséna. Les images de gâteaux qui naissent dans son imagination, elle les couche sur papier. Ils prennent forme à l'aide de pinceaux et de gouache. Ses peintures, elle les a envoyées à Rebecca Genet, qui est créatrice culinaire et photographe et qui a donné vie au rêve de Marie. C'est Rebecca qui a confectionné ces gâteaux poétiques, colorés, assez extravagants, le chapeau de la reine, la charlotte aux poules, le monticule tourbillonnant, la fleur craquante. Ils sont accompagnés de textes très poétiques qu'elle signe. Alors les doubles pages, bah, vous les faites défiler, la François-Riche, les doubles pages s'enchaînent.
Moi je fais diaporama dans cette émission.
C'est très pratique. Les pages s'enchaînent avec grâce, la réalité de Rebecca succédant au rêve de Marie. C'est merveilleux que l'on soit enfant ou que l'on soit grand. Et c'est édité par Maison Georges, qui est une petite maison d'édition indépendante qui crée des livres et des magazines pour enfants. Et c'est un vrai coup de cœur, j'adore ce livre.
C'est particulièrement poétique, joyeux, coloré, acidulé, pop. Et gourmand aussi, ouais. Évidemment. C'est un très joli bouquin à avoir dans sa bibliothèque, et pas seulement les bibliothèques des collectionneurs de livres de gastronomie. Jérôme Gagnès, vous nous servez également un coup de cœur ?
Oui, un coup de cœur d'un chef qui s'appelle Stéphane Lagorce.
Et oui.
Un grand, grand, grand technicien culinaire que vous reçûtes ici même, enfin disons sur le plateau de France Inter, le 16 mai 2021.
Oui, on l'a même reçu à plusieurs occasions.
À plusieurs occasions, mais notamment en mai 2021 pour un livre qui était le grand précis des cuissons au poil. Eh bien, ce cher Stéphane commet un premier roman, qui est un roman de science-fiction, qui narre l'épopée d'un homme d'affaires qui assiste la personne qui hérite un domaine viticole de ses parents. On est en 6800, donc autant vous dire que tout est très étonnant. C'est une écriture enlevée, c'est drôle, et c'est plein de suspense. Voilà. Je me suis beaucoup amusé à lire ce livre, et je salue les premiers pas de Stéphane dans la littérature romanesque. Il est déjà extraordinairement doué pour nous écrire des fabuleux livres de cuisine, mais voilà qu'il fait une incursion dans le roman. Bravo et bienvenue à Stéphane.
C'est vrai qu'on connaissait cet auteur comme un formidable technicien, vous le dites, qui est aussi chef, mais qui a surtout des bouquins très ambitieux scientifiquement.
Ouais, exactement.
Et le voilà désormais romancier. Ouais. Vous nous montrez le livre et vous nous en rappelez les références.
Il s'appelle « Du vin et des étoiles » de Stéphane Lagorce aux éditions Homo Habilis.
Un petit coup de cœur en passant. Alors, vous savez que les livres, évidemment, les livres de cuisine, c'est comme les champignons, ça se ramasse souvent à l'automne. C'est la saison où sont publiés, évidemment, le plus de livres. Et dans la récolte que j'ai fait l'automne dernier, j'avais mis scrupuleusement de côté un livre que j'ai eu enfin le temps de dévorer. C'est le dictionnaire gourmand du bien boire et du bien manger de Jean-Claude Ribaud aux éditions du Rocher. Alors, vous connaissez sans doute Jean-Claude Ribaud, son auteur, qui fut le chroniqueur vin et gastronomie
du Monde pendant des années.
Absolument, de 1989 à 2012. C'était quand même un destin incroyable parce que c'était un architecte de métier qui s'est reconverti en journaliste du comestible, armé d'une culture gastronomique immense, tout à fait encyclopédique. Il est aujourd'hui à la retraite. Et il a rédigé ce dictionnaire un peu comme un testament culinaire. Tous les produits, cuisiniers, tours de main, savoir-faire artisanaux, usages de table auxquels il s'est frotté pendant sa vie de gastronome sont croqués à travers de courtes chroniques classées par ordre alphabétique. Évidemment, c'est le principe d'un dictionnaire. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts. Le spectre d'exploration de Ribaud est particulièrement vaste. Et j'ai picoré quelques occurrences là comme ça. Stéphane Saulier, on est tous les deux de Bastia.
Oui.
Vous l'êtes encore un peu plus que moi. Vous voulez savoir ce qu'il écrit à l'article Corse, à la lettre C ?
Ah, j'ai hâte.
Les Corses, dans leur île, sont les plus hospitaliers des hôtes. Ils partagent en général une bonne adresse où l'on apprécie toujours le pâté de merle, bien plus prisé que le foie gras. Le pâté de merle est-il permis, interdit ? Les usages insulaires ne coïncident que partiellement avec la législation connue sur le continent. Et puis ces oiseaux, ainsi que bien d'autres, sont nourris d'olives, de baies de myrte et d'arbousiers. Ils ont une succulence qui brave le procès verbal.
Waouh !
Voilà. Comment expliquer en gros qu'on est braconnier en Corse, quoi ? J'aime beaucoup. Je m'adresse à notre bordelais d'adoption. Vous savez ce que c'est qu'un grenier médocain ?
Ah, évidemment.
Alors ?
Ils vont hurler, les bordelais, mais c'est pas grave. Ça leur fera la voix. C'est une sorte d'andouillette, en fait.
Oui.
Avec une dimension très poivrée.
Oui.
Et j'aime beaucoup ça. Et la tradition dans le Médoc est de manger des huîtres avec du grenier médocain.
Absolument. Le grenier médocain, je cite Jean-Claude Ribaud. Casse-croûte de vigneron sur les tables de vendange. C'est un mets insolent, adoré ou détesté. Alors, pour être un peu plus précis, c'est une panse de porc farcie avec des morceaux de tête de cochon. Il y a des épices, de l'ail, beaucoup de poivre en effet. C'est cuit doucement au courbouillon, c'est refroidi, c'est découpé exactement comme une andouillette, vous avez raison. Et je cite toujours Jean-Claude Ribaud, le général de Gaulle raffolait, dit-on, du grenier médocain. Cette légende laisse perplexe le président de la confrérie qui veille sur la tradition. Il a en revanche, ce président de la confrérie, le projet de créer une marque pour protéger l'appellation. Voilà.
Il a bien raison.
Je vous recommande ce gros dictionnaire bien obèse. C'est quand même plus de 900 pages qui brosse le portrait de cuisiniers majeurs, qui ressuscite des recettes oubliées, qui raconte même des us et coutumes culinaires de l'étranger, pour ceux qui penseraient que c'est un dictionnaire très franchouillard, puisqu'on y trouve par exemple à la lettre P, ben, paprika, hein, le piment des Hongrois. On y trouve couscous à la lettre C. On va en parler dans un instant avec Nada, notre invitée. Voilà, le dictionnaire gourmand du bien boire et du bien manger aux éditions du Rocher, signé Jean-Claude Ribaud. C'est Laurent Thomas qui réalise cette émission avec Johanna Gabric et Olivia Branger. Fabrice Rivaud pour la préparation et l'organisation de l'émission. Dans un instant, plongez dans les marmites marocaines avec notre invité. Juste après, allez, je vous propose une petite mise en bouche musicale. Oursoul, un classique signé de la chanteuse franco-marocaine Indy Zara. Bon appétit et bon voyage sur France Inter.
ماني ريح ماني مقيح ورسل شوي حياة تسا إنو ترمي ورسل
du Maroc est le pays invité de cette édition 2025 du Festival du Livre de Paris. C'est une grande terre littéraire, on va le voir dans un instant avec Stéphane Sollier, notre gourmet lettré. Mais c'est aussi une grande terre culinaire. D'ailleurs, dans la grande passion du moment pour la cuisine méditerranéenne, j'ai un peu l'impression que le Maroc tire son épingle du jeu dans l'édition culinaire. Alors j'ai rapporté de notre très riche bibliothèque de notre bureau de France Inter, plusieurs livres qui sont sortis récemment. Il y a le livre « Love et Harissa » de Aïda et Kenza Tazi chez Webedia Books. C'est sorti vraiment en 2025. Il y a le livre très convivial et inspiré de Abdel Alaoui, « Choukran, les recettes cultes » aux éditions Marabout. On peut citer aussi, alors ça c'est un livre qui est sorti il y a un peu plus longtemps, c'était en 2022, « La cuisine marocaine » de Salma El Fala chez Larousse. Et puis il y a évidemment le livre de notre invité Nada El Anani, ma cuisine marocaine, 70 recettes twistées de Paris à Marrakech. Alors je note que dans le titre c'est ma cuisine marocaine et non pas la cuisine marocaine.
Exactement.
La nuance de l'article a son importance, n'est-ce pas ?
Ouais, exactement, parce que c'est des recettes qui sont complètement revisitées. Dans chaque recette, ça part d'un souvenir et j'essaye de le revisiter à ma manière en changeant un petit peu la présentation, en mettant d'autres saveurs, d'autres cuisines. Et chaque recette donc est revisitée à ma manière.
La cuisine et vous, pourtant, ça n'allait pas forcément de soi puisque vous êtes né au Maroc, à El Jadida, je crois.
Ouais.
On est au sud de Casablanca.
Exactement.
Vos études de droit en France vous prédestinaient à tout autre chose.
Oui.
Vous avez embrassé une carrière juridique et tout d'un coup, on vous retrouve dans la popote. Que s'est-il passé ?
Alors, moi, je me suis m'intéresser très très tardivement à la cuisine. Donc je suis arrivée en France pour faire mes études de droit, donc je suis venue pour mon master 2. C'était pas forcément une carrière, un domaine que j'appréciais. Et pendant le confinement, j'ai découvert que voilà, je m'intéressais de plus en plus à la cuisine. Donc ça a commencé avec mon pain au levain. Donc je voulais faire du pain au levain et aujourd'hui, je cuisine tous les jours. Donc voilà.
Votre compte Instagram et vos réseaux sociaux de manière générale, ça remonte à quand cette aventure numérique ?
Janvier 2021.
Ah oui, donc le confinement a vraiment été le moment charnière où vous avez basculé.
Ouais.
La dernière fois que j'ai regardé, on n'était pas loin de 300 000 followers quand même.
Ouais, à peu près. C'est des personnes qui me ressemblent et qui ont pu retrouver en fait une cuisine traditionnelle et moderne à la fois. C'est pile au moment du confinement, j'ai développé une maladie auto-immune où je devais revoir toute mon alimentation. Et je suis passée au sans gluten et à partir de là, j'ai pris toutes les bases de la cuisine marocaine et j'ai essayé de les retransformer en sans gluten.
On se rend compte qu'il y avait quand même à l'origine une vraie culture familiale tournée vers la cuisine, comme dans de très nombreuses familles au Maroc.
Oui.
Puisqu'on retrouve de vrais souvenirs que vous réinterprétez. Oui. Il y a des recettes familiales vraiment à prendre au pied de la lettre, comme évidemment la chorba de votre maman. Rendez-lui hommage, profitez-en.
Alors ça, c'est vraiment la soupe de ma maman, parce que j'ai l'impression que je la mange chez personne d'autre. Donc je pense que c'est une spécialité de Fès. Ma maman n'est pas de Fès, c'est mon papa, mais elle lui fait ça tous les ramadans. Donc c'est une recette très simple que je n'ai pas revisitée, je l'ai gardée telle qu'elle, parce que ça me rappelle vraiment la maison.
Il y a une recette que je trouve absolument extraordinaire. Alors là, je montre à nos amis sur le plateau. Est-ce que vous connaissez cette recette?
J'adore,
qui est très pratiquée au Maroc, même si on la trouve aussi en Égypte, la bissara. Pratiquer la bissara à la maison, c'est une recommandation puisque c'est une très bonne recette, très nourrissante, faite à partir d'une légumineuse.
Oui, ça peut être soit des petits pois cassés, soit des fèves. Ça dépend des régions, ça dépend des maisons, mais c'est à peu près les deux.
Comment vous vous y prenez?
On met tout dans une cocotte, on laisse cuire et après on mixe et c'est terminé. Il y a des épices comme du cumin, du paprika. Et on met beaucoup d'huile d'olive après et on déguste ça avec un petit bout de pain et c'est l'extase.
Ce qui explique sans doute votre incroyable succès, notamment auprès des jeunes, sur les réseaux sociaux, c'est lié au fait que vous n'avez pas du tout une approche intimidante. Vos recettes sont particulièrement faciles, adaptées en fait à nos modes de vie actuels et souvent express. Je vois notamment que vous arrivez à nous réaliser un plat emblématique que nous autres touristes mangeons, dégustons très régulièrement quand on a la chance de voyager au Maroc, c'est évidemment ce tagine poulet citron.
Oui.
Et je vois qu'ici, vous avez besoin de 45 minutes de cuisson. Comment c'est possible ?
J'ai une catégorie où je mets tout dans le même plat. Donc l'idée, c'est d'utiliser une poêle pour le faire. Et j'utilise aussi une protéine qui est facilement... Enfin, c'est le blanc de poulet, donc qui se cuit très rapidement. Et donc on met tout dedans et on laisse mijoter le temps que tout soit parfaitement cuit et c'est prêt. Donc
Et ça ressemble vraiment à ça, avec ces rondelles de citron caramélisées qui font très envie.
Ça, c'est le petit plus.
Ça, je vais l'essayer ce week-end incontestablement. Il y a également la pastilla express aux fruits de mer et poissons. C'est sans doute l'un de mes plats préférés. S'il fallait que je retienne dans un panthéon de mes plats idéaux, moi, j'ai été marqué au fer rouge par des pastillas que j'ai eu la chance de déguster dans des voyages au Maroc. Simplement, c'est un protocole culinaire extrêmement technique, long, compliqué, souvent pratiqué d'ailleurs par les femmes au Maroc.
Oui,
là, vous proposez carrément... d'avoir accès culinairement à la pastilla.
Ouais, exactement. Et en plus, l'idée, c'est de le faire dans un seul plat. Et c'est un plat rectangulaire, un plat à gratin qui va au four. Donc, c'est plus facile quand on rentre du travail, on cuisine tout dans le même plat. On met juste des feuilles filo par-dessus. Une pastilla tatin, s'il en veut. Mais après, l'idée, c'est de le faire très rapidement et de retrouver ses goûts, parce que la pastilla, c'est quand même un plat qu'on mange pendant les grandes occasions. Donc, c'est de retrouver ce goût, même le temps d'un soir en rentrant du taf.
Comment on peut convertir la cuisine marocaine au sans gluten quand on sait que les céréales et le blé en particulier, notamment la semoule, est très, très importante dans cette cuisine.
Oui. Le choix des farines, on passe à des farines sans gluten. Et pour moi, l'ingrédient secret qui fait toute la différence pour le pain, c'est le psyllium.
Alors là, on évoque effectivement une...
peu technique.
Un composé végétal qui a tendance...
à gonfler au contact de l'eau.
De l'humidité, c'est ça.
Et qui reprend en fait cette élasticité du gluten.
Un couscous sans gluten, c'est possible ou pas ?
Tout à fait, on en a en plus au Maroc, ça s'appelle baddaz, c'est un couscous de maïs et on le consomme beaucoup au Maroc, donc c'est une recette sans gluten naturellement.
Ce que j'aime bien dans votre livre, Nada, c'est qu'il y a également des doubles pages.
Ouais.
Où sur un plan très technique, vous donnez tous les secrets d'une belle semoule fine.
Oui, bien travailler la semoule avec un petit peu d'huile et surtout la cuisson en deux fois à la vapeur. Et comme ça, on obtient la meilleure semoule d'un bon couscous.
Vous faites un superbe thé à la menthe, paraît-il, avec un thé bien oxygéné. Vous savez, ça consiste à faire monter dangereusement la théière au-dessus du verre. Il faut bien viser quand même, hein, je peux vous le dire.
Ouais.
Et cette étape-là a fonction d'oxygéner, je crois.
Oui, exactement,
l'eau
c'est ça.
Et d'exhaler les arômes du thé.
Il y a aussi une note, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a aussi un truc qui dit que généralement, on le faisait dans le Sahara. Et l'idée, c'est que si jamais il y a du sable qui vient, bah, ça reste sur la couche qui est au-dessus. Voilà.
D'accord, intéressant. Je crois que le vôtre n'est pas trop sucré.
Non. Moi, j'ai l'habitude de consommer le thé sans sucre parce que ma famille n'aime pas ça. Et c'est surtout quelque chose qu'on consomme au quotidien. Donc, nous, on remplace ça avec des feuilles de stevia qu'on laisse macérer un petit peu dans le thé. Moi, j'aime beaucoup le goût parce que ça a un petit goût de réglisse. Donc, moi, ça ne me dérange pas et j'aime bien ça.
Nada El Hanini, vous revendiquez évidemment votre cuisine marocaine, la cuisine de vos origines, mais vous ne l'enfermez pas du tout dans une tour d'ivoire. Au contraire, vous l'ouvrez, cette cuisine marocaine, à tous les vents. On pourrait même parler de fusion dans certaines recettes puisque vous n'hésitez pas à inviter la feta, ce fameux fromage grec de brebis, dans un plat à base d'olives et de charmoula, par exemple.
Oui.
Vous faites une recette crevette, coco et ras el hanout. Le ras el hanout, on en a parlé... il y a quelques semaines, hein, c'est ce fameux mélange emblématique qui peut comporter jusqu'à 50 épices.
Ouais, exactement.
Les Français d'origine marocaine et les Marocains qui vous suivent, est-ce qu'ils vous envoient des commentaires hargneux sous vos recettes sur Instagram parce que vous trahiriez la cuisine marocaine ?
Franchement, bizarrement, moi, j'ai pas du tout ce problème. Et moi, je crois que j'ai vraiment attiré... une communauté qui s'est retrouvée en fait dans cette fusion et dans cette cuisine marocaine moderne et ça a beaucoup plu, donc bizarrement et je suis vraiment contente de ne pas avoir ce genre de commentaires, mais non, j'ai pas eu ce problème.
C'est tant mieux, vous avez une vraie cote de sympathie. Bravo pour votre démarche. Dans un instant, évidemment, on va goûter une très très belle recette à base de carottes. Il y a d'ailleurs, je crois, une assiette qui circule dans le public. Il y a déjà quelqu'un qui est prêt à nous faire un petit commentaire ou pas? Il y a madame, il y a quand même une main qui se lève au premier rang.
France Inter. On va déguster.
La cuisine des mots pour évoquer les saveurs marocaines, c'est la mission de notre gourmet lettré Stéphane Solier.
Oui, alors je me suis posé la question et j'ai mené une enquête pour savoir quel est l'ingrédient secret qui ferait de la cuisine marocaine l'une des meilleures du monde, au dire du romancier Tahar Ben Jelloun. Je me suis lancé le défi de le dénicher dans les textes des écrivains voyageurs du passé et dans les valises des personnages déracinés de la littérature marocaine d'aujourd'hui. Alors, pour trouver cette pierre philosophale de cette cuisine, je me suis plongé d'abord dans les mémoires des écrivains voyageurs partis à la découverte du pays. J'ai cherché d'abord chez Pierre Loti, qui s'extasie dans son récit de voyage enchanteur intitulé « Au Maroc » en 1890 sur un couscous sucré, un couscous salé surmonté d'un édifice de poulet, un mouton rôti ou bien une pile de ces petits gâteaux très aromatisés qu'on appelle au Maroc les sabots de gazelle. Malgré l'extase, Pierre Loti ne nous dit pas ce qui fait l'esprit, le miracle de la cuisine marocaine. Alors, j'ai suivi les traces de l'explorateur archéologue Henri de Lamartinière, qui, dans ses souvenirs du Maroc de 1918, célèbre la profusion de parfums d'un festin. Nous débutons par la bestia, je le cite, la bestia étant la pastilla, dont le nom évoque quelques pâtisseries de l'époque andalouse, que l'on imagine un long serpentin enroulé d'un feuillage croustillant au beurre frais farci, d'une pâte d'amande, de chair de pigeon, d'œufs durs et parfois de pistache, le tout saupoudré de sucre très fin avec un soupçon de cannelle. La pastilla est un plat de luxe et qui réclame une longue et soigneuse préparation. Puis, il évoque des poulets gras, dodus et tendres dans diverses sauces, une débauche de volaille, dit-il, une extraordinaire série entremêlée de plats de pigeons et de tagines ou ragoûts, des petits beignets d'une pâte de fine farine frite dans du beurre avec de ce miel marocain de la montagne qui a un parfum de fleurs alpestres, Et il évoque même l'idée qu'on voulut bien nous laisser un peu de repos avant l'arrivée du couscous. En guise de dessert, on servit de délicieux petits gâteaux appelés chevilles de gazelle. Bon, Henri de Lamartinière semble saisir plus intimement ce qui est au fondement de la cuisine marocaine, mais il résiste encore un peu à une explication plus théorique. Alors, je me suis tourné vers la plus gourmande de nos écrivaines, Colette, qui évoque dans ses notes marocaines prises lors de son séjour en 1926 un déjeuner très raffiné chez le Glaoui, le pacha de Marrakech. Je la cite, c'est un très très beau passage. « Des pigeons baignant dans une mille succulente, accompagnés d'olives vertes, de pois chiches fondant en farine, d'oignons doux, des poulets inhumés sous la fève fraîche à peau plissée, sous le citron cuit et recuit tombé en purée sapide. » Un divertissement exquis de galettes feuilletées à la limite du feuilletage mi-cassé qui cachait un noyau douillet de volaille en hachis, sucré, rehaussé de muscade. « Et quoi ?» s'exclame Colette. « Tout ce sucre dans des mets que nous salons ? Permettez que j'ouvre une parenthèse de congratulations. La bonne cuisine marocaine, je rappelle ici une parfaite hospitalité indigène, a ses secrets, ses principes éprouvés. » Elle confie longuement aux braises assoupies des plats variés où personne, grâce à l'huile d'olive, ne regrette le beurre. Vint enfin le couscous moelleux, granuleux ensemble, le couscous annonciateur, discret, du dessert et des fruits, le couscous rempart concentrique d'un fortin d'oignons doux et de raisins muscat gonflés à l'étuvée, le couscous et les bols de babeurre à peine aigris.
Ah, la plume gourmande de Colette qui semble toucher au cœur ce qui fait l'âme hein, de la cuisine marocaine. On pourrait dire que Colette plie le game.
Ah oui, elle plie le game, mais quand même, je suis allé vérifier un peu ses dires et je suis allé chercher ce qui fait saliver l'inspecteur Ali, le héros des romans policiers de Driss Schraibi, notamment dans le roman « L'homme qui venait du passé ». L'auteur dit « Il souleva le couvercle de la marmite en terre que venait d'apporter Bouzid ». C'était succulent, rien qu'au fumet et à la vue. Les pieds de veau avaient été sciés en deux pour en dégager la moelle, puis fichés dans un kilo de blé dur afin que cette moelle reste entière et intacte en cours de cuisson. C'était la argma des temps anciens, la vraie de vraie. Puis on avait enfourné la marmite au champ du coq et durant 7 heures d'horloge, la argma avait mijoté sans jamais bouillir. Et ils se mirent à piocher dans le plat à main nue et à se délecter avec délectation. Alors j'ai aussi fureté dans les valises des personnages de la littérature marocaine qui se sont exilés et pour qui la cuisine est un véritable cordon ombilical les rattachant à la mère patrie. Dans Partir, le roman de Tahar Ben Jelloun de 2006, le personnage Hazel, qui ne supporte plus la perspective du chômage, décide de partir en Espagne. Il associe l'idée de sa patrie au bonheur familial, aux odeurs de la cuisine, et en recevant sa sœur Kenza, quand il est en Espagne, qui arrive avec des spécialités culinaires préparées par leur mère, Lala Zora, c'est son Maroc idyllique et enfantin qu'il retrouve. Je cite... Le Maroc débarquait en Espagne avec des tagines de poulet aux olives et citron confit, des pastilles de caille, des cornes de gazelle, des gâteaux au miel pour le ramadan, des épices, de la menthe séchée, de la coriandre moulue, de l'encens. C'est que, comme le prédit leur mère, tu auras beau partir, ton pays te manquera toujours. Le Maroc, on s'y attache très fort. Il attache, dans le vrai sens du mot, comme une poêle. Voilà. Le secret est consacré. Tout dans les pages de la littérature confirme la continuité de cette identité culinaire marocaine, faite de temps long, de sucré salé et de générosité.
Merci Stéphane Sollier. Et en parlant de générosité, c'est une valeur que respecte visiblement notre invitée Nada, puisqu'elle fait circuler un plat que vous dégustez. Alors, vous êtes à l'aveugle, quel est votre prénom ?
Lucie.
Bonjour Lucie.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez de ce plat ?
Je trouve ça très très bon, surtout la cuisson des carottes.
Ouais.
C'est fondant, mais en même temps, les carottes, elles sont fermes. Et il y a de l'ail, et j'adore l'ail, donc je suis très contente.
Est-ce que vous détectez un autre arôme,
oui,
une épice ?
Oui, il y a des zestes de citron, et ça rajoute un côté frais qui est très agréable, je trouve. Donc voilà, je trouve ça très bon.
Merci beaucoup, Lucie. Alors, autour du plateau, c'est un truc incroyable, ce truc.
Ah, on se régale, ouais.
Oh là là.
Et puis un goût de tahine, de purée de sésame assez prononcé, qui va tellement bien avec le côté sucré de la carotte. Mmh. C'est vraiment un mariage superbe.
La carotte est bien concentrée dans ses sucs et dans ses sucres.
Donc en fait là, l'inspiration part toujours d'un plat que j'ai connu toute petite. En fait ici, c'est la salade de carottes marocaine au cumin. mais je l'ai marié à des goûts aussi qui sont orientaux. Donc dans la base, on retrouve une sauce qu'on peut retrouver en Syrie ou au Liban à base de yaourt, de tahini et d'ail.
Rappelons que le tahini, comme le disait Elvira, c'est donc cette crème de sésame.
Oui.
Qui apporte comme ça des goûts noisetés, très
exactement.
Gourmand, un yaourt par exemple.
Ouais, c'est hyper gourmand. Et par-dessus, on retrouve le croquant avec un douka, qui est un mélange d'épices et d'oléagineux qui vient d'Égypte.
Un mélange d'épices particulièrement gourmand, mm-hmm. qui comporte dans votre cas des noix.
Ouais.
Et ces noix, vous les concassez en quelque sorte avec des épices, de l'anis.
Oui, de l'anis, de la coriandre, du poivre, du cumin. Et on fait torréfier un petit peu et on mixe vraiment grossièrement pour garder ce côté croquant. Et on ajoute ça partout sur des tartines, des salades, sur des carottes. Ça relève tout le plat et je trouve ça vraiment hyper, hyper gourmand.
Mais attendez, toutes les recettes du livre ont ce niveau culinaire.
Ah, je pense.
Parce que là, ça fait vraiment... Non, mais je vous le dis franchement, en plus, c'est dégusté froid, dans des coupelles en carton, ça fait mouche.
C'est délicieux et on flirte avec le confit dans la carotte qui est d'une saveur et d'une profondeur incroyable.
Merci.
Et cet assemblage d'épices et de tahini, c'est très juste. Rien ne se chevauche, rien ne passe devant l'autre. Tout se soutient, c'est un très, très joli plat.
Petite Merci carotte fine, beaucoup. C'est ça, hein, ouais. Les carottes de printemps.
C'est ça, c'est ça.
Vive la cuisine de Nada El Hanini, franchement, ça c'est un petit coup de maître, hein. C'est vraiment une petite recette qu'on va reproduire très très vite. Merci beaucoup.
Merci
Nada.
Merci.
On va déguster sur France Inter.
Vu le niveau des recettes de notre invité, cher Jérôme Gagnès, il va falloir faire aussi bien dans le verre. Bravo.
Oh, c'est un des plus beaux, magnifique. Alors, on a un verre et un livre. On va commencer par le livre. Et on accompagnera la lecture du livre avec le vin.
Donc des pages et des cépages.
Exactement, bravo. Le livre, ça s'appelle « OVNI 50 histoires lunaires sur le vin » aux éditions Hachette Vin. Celui-là est sorti en novembre 2024. Je l'avais gardé sous le coude. Il est l'œuvre d'un garçon absolument formidable, facétieux et taquin, et un très grand scientifique qui s'appelle Fabrizio Buccella. Fabrizio a commis pas mal de livres différents, toujours avec un ton qui mêle l'humoristique, la vulgarisation scientifique et une plume tout à fait alerte. Il a notamment écrit l'Antiguide du vin, Pourquoi boit-on du vin ? Vous en trouverez beaucoup sur Internet. C'est un auteur assez prolifique. Et ici, eh bien, ce sont 50 histoires lunaires, donc ce sont 50 anecdotes sur le vin qui sont expliquées à travers notamment ce que peut apporter la science dans l'explication de ces histoires. Et chose que j'aime beaucoup, Fabrizio nous gratifie dès le deuxième chapitre d'un magnifique zeugma que je ne résiste pas à vous lire.
Un magnifique
zeugma. Vous savez pas ce que c'est qu'un zeugma ?
Non mais
alors je vais vous citer la définition du dictionnaire des dictionnaires. On est dans l'Olympe, on est carrément, il y a pas plus haut. C'est le dictionnaire de l'Académie française.
Est-ce que c'est validé par Stéphane Solier ?
Oui, pour l'instant oui.
Donc figure rhétorique qui consiste à faire dépendre d'un même terme des compléments qui ne sont pas sur le même plan. Sémantique.
Très bien.
Application chez Fabrizio.
Voilà qui est clair.
Quand personne n'aura été blessé, vous pourrez sortir une blague et de votre cachette.
C'est un vrai zeugma.
C'est un vrai zeugma. C'est toujours un petit bijou de rhétorique. Je suis très, très fan de zeugma, comme l'était l'extraordinaire Jérôme Garcin, qui ne manquait jamais de les souligner dans l'émission Le Masque et la Plume.
Absolument.
Nous saluons Jérôme Garcin. Et donc, voilà ce livre qui nous conte plein d'histoires avec notamment, tout un article sur le privilège bordelais qui explique bien des choses sur ce qu'est Bordeaux aujourd'hui et sur le grand succès de Bordeaux. On apprendra aussi que le juge est plus clément le ventre plein que le ventre vide. Il y a une véritable étude scientifique qui a été faite. Et voilà, tout le livre comme ça est à l'avenant. C'est très amusant, c'est richement illustré par Théophile Sutter. Et c'est un livre qui se lit avec grand plaisir, c'est un livre qui se glougloute, c'est un livre qui se lit...
Se boit plus sec.
Exactement, c'est vraiment une merveille. Et justement...
Fabrizio Buccella, il y a connotation italienne, Alessandra Pierini.
Oui, il est d'origine italienne. Moi, je suis bien ses chroniques sur Instagram de Science Décalée. Il est phénoménal.
Il est vraiment très drôle. Il est belge, il est docteur en physique à l'Université Libre de Bruxelles. Donc vraiment, c'est pas Joel Clodo en termes de science. Le mec en sait un peu quand même. Pour accompagner ce livre, vous avez dans votre verre un vin qui s'accorde tout à fait dans ce côté guilleret, joyeux. C'est l'œuvre d'un très grand nom de Bordeaux, avec son fils maintenant, c'est Nicolas Tiempon et Cyril Tiempon. Nicolas et Cyril, ils ont à la fois des propriétés à Bordeaux, notamment dans l'appellation Côte de Franc et Côte de Castillon. Côte de Castillon, cette appellation que nous adorons dans cette émission. Et puis Côte de Franc, qui est sa voisine orientale, à l'est, à l'extrême est d'ailleurs du vignoble bordelais, puisque si vous trébuchez sur une pierre, sur un chemin de Côte de Franc, tac, vous arrivez dans le Bergerac. Donc, il faut faire très attention, hein, ça peut être dangereux. Donc, on fait bien attention là où on marche. Et ici, on est en plein cœur des Côtes de Franc. Alors, Nicolas Tiempon, il gère des crus classés de Saint-Émilion qui sont extraordinaires, Pavie Maquin, Larcisse Ducasse et compagnie. Et puis, il a cette propriété, Château Puy-Guéraud, en Côte de Franc. Et donc, ils ont choisi, sur des terroirs de marne calcaire, des merlots et des cabernets francs qu'ils ont assemblés. Et puis sur le calcaire, ils ont des sauvignons blancs. Et ils se sont dit, vous savez ce qu'on va faire pour rigoler? On va mettre un peu de sauvignon blanc dans ce vin rouge. Et on va lui apporter à la fois de la fraîcheur, on va détendre un petit peu la trame tannique. Ici, le sauvignon blanc, il vient comme un exhausteur d'arômes. Il vient révéler les arômes des merlots et des cabernets francs. Cuvaison courte, donc on extrait peu. L'idée, c'est d'avoir un vin qui soit souple, qui soit friand, qui ait à la fois du fond, parce que les Tiempons, ils ne savent pas faire des vins merdiques, donc il faut qu'il y ait du fond. Et en même temps, on a ce côté très friand, très joyeux, très facile d'accès. On critique beaucoup Bordeaux, moi parfois le premier aussi, mais il faut bien dire que là, voilà des gens qui révolutionnent, qui font un vrai pas de côté et qui nous proposent aujourd'hui un vin qui est éminemment bordelais, qui renoue avec aussi une tradition très ancienne de Bordeaux léger, genre clarette. Et c'est tout à fait l'esprit de ce vin, ça vaut 10 euros. C'est une petite merveille. Vous avez toutes les infos sur le site de l'émission et je ne peux que vous engager à mieux connaître l'ensemble des vins de Nicolas et Cyril Tiempon avec comme porte d'entrée ce vin qui s'appelle Rouge Vif. C'est un 2024. Ça se sert comme un blanc structuré, c'est-à-dire ça se sert vers 12-14 degrés. Voilà.
Alessandra Pierini, vous qui avez le palais bien affûté.
Il porte très bien son nom, un rouge profond, de la matière, en même temps vif, frais, parfumé, vraiment un vin délicieux.
Dans un instant, le coup de cœur d'Elvira Masson, le nouveau livre Phénomène d'Alessandra Pierini, assez surprenant. Et évidemment, une douceur marocaine. On va revenir aux douceurs marocaines avec notre invitée Nada El Hanini. Il y a une très belle douceur assez originale hein, qui se présente là comme ça dans nos bols. J'ai commencé à picorer, faut pas trop en dire, mais c'est vraiment, vraiment délicieux. Surrender. I'm getting ready to fly. I'm superhuman, I'm supernova. I burn the candle both sides. Your force is coursing right through my body. I feel the temperature rise. I only want this, it's hallelujah. Is wanting open 7 days of the week. Your life is constant, it's never stopping. Just take a second and breathe. De l'artiste anglo-nigérien Obong Jaya, histoire de se réveiller les tympans et les papilles.
On va déguster au Festival du Livre de Paris.
Alessandra Pierini, c'est à nous. On vous connaît évidemment comme l'une des chroniqueuses dans la bande dont on va déguster, spécialiste de la cucina italiana. Vous êtes également l'une des rédactrices en chef avec mon voisin Stéphane Solier, dont on va déguster l'Italie, chez Marabout et les éditions de Radio France. Vous êtes aussi une autrice particulièrement prolifique aux éditions de l'Épure. C'est votre éditrice Sabine Buquet qui a de la chance. Combien de livres aux éditions de l'Épure au compteur ?
Bientôt une vingtaine.
Ah, quand même. Et le petit dernier commence déjà à faire couler beaucoup d'encre, puisque c'est certainement le plus singulier, le plus étonnant des ouvrages dans votre bibliographie. Attention, la cuisine des maisons de plaisir italiennes, 1929. Comment, Alessandra, vous vous retrouvez à la tête de ce livre ? Je crois qu'il y a à l'origine une très belle rencontre.
Absolument. J'étais à Bologne avec mon éditrice et Stéphane Solier. On était là il y a 2 ans pour un autre livre qu'on a écrit ensemble.
Artusi.
Et on a été invités par un collectionneur de livres anciens de cuisine français et italien, Vittorio Maltoni, un monsieur qui nous a ouvert sa bibliothèque et qui nous a tendu un petit livre d'une trentaine de pages qui nous a tout de suite passionnés.
Intrigués.
Parce qu'il avait une couverture qui était exactement celle que nous avons repris donc dans notre livre aux éditions de l'Épure et qui était un véritable papier peint de l'époque, des années 30, d'une chambre à coucher, bien évidemment.
Couleur pastel, motif fleuri de papier peint, un peu japonisant, je trouve, avec du rose poudré, du bleu turquoise.
Vraiment de ces belles couleurs. Et donc, à l'intérieur, le livre, il était assez simple, une mise en page assez monacale. Et surtout, il contenait 34 recettes de cuisine avec une toute petite préface. Et ce qui nous a intrigués, c'était en fait le titre de ce livre en français. Et c'était bien « La cuisine et des maisons de plaisir italiennes ».
En français, donc. Hein.
En français. Et à la fin du livre, un gage de signature, une adresse. 6 rue des Moulins, Paris. Bien sûr, on est allé voir tout de suite à quoi correspond ou correspondait à l'époque cette adresse. Et c'était La Fleur Blanche, donc une maison close très célèbre à l'époque, qui a eu comme client et comme hôte Toulouse-Lautrec.
On est dans l'entre-deux-guerres ?
Absolument. Il a vécu quelques années, il avait sa chambre et son couvert. Et c'était là qu'il a peint ses plus grands chefs-d'œuvre.
Mais alors, pourquoi cette relation entre la France et l'Italie ?
Mais parce que
pour un livre sur les maisons de plaisir en Italie ?
Ben avec la préface, nous a mis un tout petit peu sur le chemin. En fait, c'était une certaine Madame Cora. Donc, c'était bien sûr un pseudonyme et qui était la tenancière de cette fameuse maison close au 6 rue du Moulin Paris, qui est partie donc avec une délégation de 4 personnes, donc elle et 3 hommes, 3 autres tenanciers français, qui ont fait un voyage d'un mois et demi en Italie, invités par un confrère, Cesare Albino Bianchi, qui était donc un sympathisant fasciste de l'époque aussi, qui les a baladés pendant un mois et demi dans les plus grandes et célèbres maisons closes italiennes entre Gênes, Bologne, Florence, Rome et Naples, donc pour essayer de signer avec eux une alliance bien particulière. Bon, il faudra lire le livre pour
bien
voir
sûr
si cette alliance a été bien signée.
Et il y a évidemment donc, dans ce livre, puisque c'est aussi un livre de recettes, 34 recettes. Alors, on pourrait s'attendre dans un livre sur les maisons de plaisir à des recettes avec toutes les ficelles un peu faciles, des ingrédients aphrodisiaques, des intitulés suggestifs. Pas du tout.
Pas du tout.
On est vraiment dans un registre très cucina povera.
Ça reflète bien la cuisine fasciste italienne de l'époque. Ce sont des recettes très simples, des recettes de terroir, un petit peu de campagne, mais surtout des recettes, il fallait que ça tienne au corps, que ça donne de l'énergie à ses filles, qu'elle puisse tenir le coup, donc sans trop de chichi bien sûr. Et surtout, une chose très importante et primordiale que je suis arrivée à détecter en lisant ces recettes, c'est qu'aucune contient des ingrédients à la base vraiment de toutes les recettes salées italiennes, qui sont l'ail, l'oignon, le poireau et l'échalote. Donc, comment faire un sofrito sans tous ces ingrédients?
Pour quelle raison? C'était pour des raisons de quoi?
Il fallait surtout que les recettes soient très digestes, que l'haleine soit plutôt parfumée. Et surtout parce qu'à l'époque, on avait donc la croyance que l'oignon cru devait soigner les maladies, surtout la syphilis, donc une maladie très dangereuse et qui se transmettait très facilement. Et donc, tous ces ingrédients étaient bannis de la cuisine parce que ce n'était pas agréable que les clients imaginent donc que les prostituées puissent être éventuellement malades.
Et Alessandra Pierini, vous êtes sans doute trop pudique, cachée derrière ce papier peint très joli, pour avouer qu'il y a au cœur de ce livre une petite surprise. Je fais juste comme ça, je la montre, je la referme. C'est une frise coquine que les lecteurs et les lectrices auront le plaisir de découvrir.
Rien.
Mais attention, c'est là encore une frise du livre original.
Tout à fait, qu'on a tout simplement repris. Donc c'est la frise qui est en couleur, une frise d'un auteur, une illustration magnifique en 4 volets qui est cachée donc à l'intérieur de ces pages, qui montre une scène très animée de maison close avec une vingtaine de femmes, une quinzaine d'hommes.
Oui, très animé, ouais.
Oui, un gros contraste en fait avec les recettes de cuisine très austères, très simples, rassasiantes plutôt.
Pasta et fagioli, les carciofi à la giudia, il y a énormément de recettes très intéressantes, baccalà, la fiorentina, gnocchi, etc. Et puis, vous nous avez préparé un petit dessert.
Un dessert de saison, bien sûr, qui sont les dolce di fragole. C'est une sorte de mousse aux fraises très, très simple à réaliser, qui est tout simplement préparée avec des fraises écrasées, un petit peu de sucre, du blanc d'œuf monté en neige. Et ensuite, elle est cuite 10 minutes au bain-marie et servie fraîche.
C'est parfumé.
C'est particulièrement fruité cette saison. Bravo. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme Gagnès?
C'est aérien et ça a un goût de trop peu.
Oui, c'est vrai. Vous auriez pu en faire plus, Alessandra, je suis d'accord. Je vous recommande chaleureusement la lecture de La cuisine des maisons de plaisir italienne 1929. C'est à la fois un livre d'enquête, c'est un formidable livre de recettes. Vous les avez à peine réactualisées, mais vous les avez quand même bien vérifiées. Un panorama alimentaire des maisons de plaisir en général et de l'Italie de l'entre-deux-guerres.
De la cuisine fasciste du temps de Mussolini, en fait, oui.
Et c'est en plus un très beau livre avec une petite surprise au milieu. Mais ça, on ne va pas trop insister, mais vous l'aurez bien, bien compris.
On va déguster. Sur France Inter.
Elvira Masson, un coup de cœur.
Entre la Bretagne et le Massif central, depuis 10 ans, le photographe brestois Vincent Gouriou, dont on connaît le travail de portraitiste publié dans Télérama et dans Libé, a rencontré des paysans LGBTQ+, bergers et bergères, éleveurs et éleveuses, maraîchers et maraîchères. Ils et elles ont choisi de rester, de revenir ou de s'installer en milieu rural pour cultiver la terre, pratiquer l'élevage ou développer des projets artistiques. De ces rencontres est née une série photo, Chant d'amour. Chant comme le chant qu'on cultive, mais on peut l'entendre aussi comme chanson d'amour. Une partie de ces images, celles qui ont été faites dans le Massif central en 2023 et 2024, sont rassemblées dans ce superbe et modeste livre. Il est petit de format. Je vous laisse, François-Régis, l'ouvrir et peut-être, comme vous l'avez fait tout à l'heure, le déplier en deux pour montrer à la fois la couverture et la quatrième de couverture qui ne compose qu'un seul tirage. C'est beau, hein ? On voit des mains de maraîchers qui tiennent des blettes multicolores avec des tiges de toutes les couleurs. Ce petit livre a été publié par Filigrane Éditions et par l'association Clermont-Ferrand Massif Central qui anime la candidature de la ville et du territoire au titre de capitale européenne de la culture 2028. C'est un travail photographique puissant, la symbiose avec le vivant, des hommes et des femmes représentés comme des paysages, le passage des saisons. Autant que sensible, on y perçoit la douceur d'un regard, qu'il soit celui de l'homme ou de l'animal, et des gestes d'amour. Dans le texte qui clôt le livre, Vincent Gouriou explique que dans l'imaginaire collectif, une personne LGBTQIA+, ne pourrait s'épanouir que dans l'anonymat de la grande ville, que la ruralité lui serait plus hostile. Il montre au contraire que la relation avec la nature, avec le vivant, permet peut-être de vivre son identité d'une autre façon, malgré l'invisibilisation que son travail de photographe permet de contrecarrer. points carrés. Ce travail est introduit par un texte de Marie-Hélène Lafon, qui est l'autrice de livres que j'aime énormément, Les Sources, La Ferme de Gilles, Le Pays d'en haut, qui sont ancrés dans son Cantal natal, cette vallée de la Santoire, ses montagnes. Sa terre à elle, c'est ce Cantal taiseux comme ses habitants, à qui elle donne une voix. Elle fait parler les choses, les paysages, les bêtes et les fermes. Alors j'ai lu quelque part, je ne sais plus trop où, que Marie-Hélène Lafon façonne ses récits comme on travaille la terre. Dans un entretien qu'elle a accordé à la série Imaginaire paysan des Nuits de France Culture, elle confie qu'elle aime les métaphores et le registre agricole pour parler de l'écriture. Creuser le vide, creuser le sillon. Elle aime l'attente propre à l'écriture et à l'agriculture. Dans ce même entretien, elle dit qu'écrire, c'est faire entendre un chant. Et elle précise qu'elle pense aux deux chants, comme Vincent Gouriou, dont elle préface si magnifiquement le travail. Je voudrais ajouter deux choses. Le travail de Vincent Gouriou, Chant d'amour, sera exposé du 29 avril au 17 mai à la galerie Obsession, 5 passages Charles Dallery à Paris dans le 11e. Je voudrais aussi que ce livre, je ne l'aurais pas croisé si la librairie Nord-Est, rue de Dunkerque, à Paris, dans le 10e, ne l'avait pas mis sur mon chemin. C'est mon épatante petite librairie de quartier et sa non moins épatante équipe de libraires passionnés et engagés. Vive les librairies indépendantes.
Et les photos dégagent une puissance et une force. Et c'est aussi l'impression de cette maison d'édition filigrane qui
la
se met
au
service de la beauté et la poésie de ces photos.
C'est très poétique.
Ouais. Merci beaucoup pour ce très beau coup de cœur, Elvira Masson.
Sur France Inter, on va déguster.
À part cornes de gazelle et quelques gâteaux à gauche et à droite, nous les Marocains en pâtisserie, je pense qu'on arrive à faire des gâteaux plus sucrés que le sucre lui-même.
Est-ce que vous avez reconnu le créateur de contenu d'origine marocaine, El Mentaliste, qui cumule quand même pas loin de 1 million d'abonnés sur TikTok ?
Oui, oui, oui.
Vous vous connaissez ou pas ?
Non, on se connaît pas, mais je le suivais il y a très très longtemps. Hein.
Mais alors, j'aime beaucoup l'idée que les desserts marocains sont plus sucrés que le sucre. Et en même temps, nous avons comme invité Nada Elanini, qui précisément fait des efforts colossaux pour réduire le sucre dans la cuisine marocaine.
Oui, exactement. Alors, pour ce granola, c'est un mélange de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est comme des boules d'énergie qu'on mange au Maroc, ça s'appelle slo. Et on le consomme pendant le ramadan, justement pour être calé, pouvoir tenir toute la journée. Et dedans, il y a pas mal de saveurs. On retrouve des amandes, de l'anis, du sésame, de la cannelle, d'eau de fleurs d'oranger. Et l'idée, c'était de retrouver ces goûts-là dans un copycat un petit peu, où c'est beaucoup plus light, avec des textures beaucoup plus croquantes. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait ce granola aux épices marocaines. Moi, j'ai ajouté un petit peu de purée d'amandes. Il y a du miel, il y a de l'anis, il y a du sésame, il y a des amandes. Je crois que c'est mon coup de cœur de ce livre, parce que ça me rappelle vraiment des saveurs que j'apprécie particulièrement.
Alors, ça grignote, là ? Qu'est-ce qu'on en pense de ce granola à la marocaine ?
J'ai tout fini, moi.
Non, mais c'est dingue. Et c'est très, très bon. Commence à marquer des points.
J'ai tout fini, là.
C'est un sans faute, Nada Elanini. C'est assez spectaculaire. Hein.
Merci.
Ce granola, il est totalement addictif.
Ah, merci, je sais. Hein. J'ai mangé la moitié hier.
Une recette de plus dans un bouquin qui vraiment ouvrira vos chakras. Au niveau de la cuisine marocaine, ma cuisine marocaine, 70 recettes twistées de Paris à Marrakech aux éditions Marabout. Le livre se porte bien ou pas ?
Très bien, j'ai des très bons retours. Il y a beaucoup de personnes qui l'achètent ici, mais aussi au Maroc. Et ça me réchauffe le cœur parce que c'est mon pays et je suis très très contente de pouvoir aussi inspirer des personnes qui sont au Maroc et qui sont beaucoup plus qui sont sur le terrain, donc proches des recettes traditionnelles.
Eh bien, merci beaucoup. Bon, on va déguster juste après l'émission les cornes de gazelle, cher Stéphane Sulet, que vous nous avez apportées. Hein.
Je les ai apportées parce que tous les textes que j'ai cités évoquaient ces chevilles ou talons de gazelle dans la langue marocaine et cornes ou croissants plutôt dans la langue algérienne.
On va se régaler, elles viennent d'où celles-ci ?
Celles-ci, elles viennent de la Rose de Tunis, à Paris.
Ah, la corne de gazelle est commune à tout le Maghreb. Merci beaucoup et merci au Festival du Livre de Paris pour son accueil dans le cadre prestigieux du Grand Palais. Vous avez encore auditeurs et auditrices jusqu'à ce soir 19h pour profiter de la plus grande librairie de France. Merci cher public d'être venu aussi nombreux. La semaine prochaine, retour dans nos studios parisiens pour une émission entièrement consacrée à l'œuf. Ce sera le dimanche de Pâques, il n'y a pas de hasard. Merci Jérôme, merci Alessandra, merci Elvira.
Bon dimanche
à tous.
Bon
dimanche.
Merci encore Nola. À dimanche prochain.
Si vous avez encore faim.